Le 101,4 MHz, ici Radio Pleine Lune.
Je veux être aimée pour moi-même et non pas pour mes ornements. Je veux être adorée quand même, sans cheveux, sans chair et sans gants.
Radio Pleine Lune, le rendez-vous des femmes qui bougent. Ou qui aimerait bouger, disent les pessimistes. Radio Pleine Lune. Radio Pleine Lune, une radio pour des femmes, faite par des femmes. Radio Pleine Lune, notre téléphone 2001-93. Radio Pleine Lune, vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse de Radio Zone, 7 Grand Rue, Ferney-Voltaire. Bonjour, ici Radio Pleine Lune. Comme chaque mercredi, le miracle de Radio Pleine Lune se reproduit. Vous êtes à l'écoute de Radio Pleine Lune. À propos, je suis beaucoup moins essoufflé qu'il y a quelques instants dans la chanson indicative de Radio Pleine Lune. Ça, c'est un des petits miracles de la technique. Un miracle facile. Même la technique de Radio Pleine Lune en est capable. Vous avez remarqué? Brigitte Fontaine est revenue dans l'indicatif Radio Pleine Lune d'aujourd'hui. Mais hélas pour les traditionalistes, s'il y en a parmi vous, ce matin, tout n'était pas comme à la radio, même si c'est la Radio Pleine Lune. Voilà. Je crois que j'ai assez répété Radio Pleine Lune. Vous savez où vous êtes et ce que vous écoutez. On peut passer à la suite. La suite de Radio Pleine Lune, bien sûr. Une petite rectification. Téléphonez-nous. On aime beaucoup les téléphones à Radio Pleine Lune, dit souvent quelqu'une de nos grandes speakers préférées. Mais téléphonez-nous dans la soirée après 18h30. Merci. Je parlais de miracle tout à l'heure. En fait, c'est un vrai miracle que vous puissiez écouter Radio Pleine Lune toutes les semaines. À Radio Pleine Lune, nous sommes toutes bénévoles et c'est en plus de nos heures de travail que nous vous concoctons vos émissions préférées. Et le matériel coûte cher, alors soutenez-nous, bien sûr. Soit, si vous vous sentez une âme de speakerine, technicienne, si, c'est pas difficile et ça s'apprend, ou réalisatrice, en nous contactant ou en venant nous aider. À propos, notre téléphone, c'est le 20-01-93-023 depuis la Suisse. Soit en nous soutenant financièrement et en nous faisant parvenir vos contributions, si vous êtes en France, à l'adresse de Radio Pleine Lune, chez Radio Zone, 7 Grand Rue, Ferney-Voltaire, et si vous êtes à Genève, à Radio Pleine Lune, chez Radio Zone, 7 Boulevard Karlevogt. Merci d'avance à toutes celles qui. J'ai ici quelques informations qui concerne la fin de cette semaine, fin de semaine qui risque d'être chargée du reste. Tout d'abord, et c'est le plus important je crois, le comité contre le viol propose 4 jours de débat dès ce soir et jusqu'à samedi 4 décembre au centre de loisirs des Astères, 47 rue Chaube. Le programme, ce soir à 20h15, c'est une soirée non mixte avec un film « Le petit chaperon rouge » fait par des Canadiennes. Témoignages de femmes victimes de violences qui proposent entre autres une réponse possible, l'autodéfense. Ce sera suivi d'un débat où le comité explicitera son expérience depuis un an, où il en est actuellement, ses recherches et ses interrogations. Demain, jeudi 2 décembre à 20h15, encore une soirée non mixte avec une vidéo « Les procès de Milon » et le débat « Les problèmes posés par le recours à la justice, l'expérience du comité » ses positions à propos du procès de Prenaville avec la participation d'avocates suisses. Vendredi 3 décembre à 20h15, c'est une soirée mixte. Un film, Mourir à toute tête, et un débat, Une femme violée est-elle une femme morte? Tout homme est-il un violeur? La sexualité n'a-t-elle pas d'autre issue que le viol, la violence et la domination? En fin d'émission, si nous avons le temps, nous vous passerons un communiqué du comité contre le viol qui expliquera aussi pourquoi il a décidé de faire aussi une soirée mixte. Enfin, samedi 4 décembre, dès 16h, de nouveau non mixte, des expos, des ateliers, le squat femme, solidarité femme en détresse. La radio Pleine Lune sera présente, bien sûr, et à 20h15, un vidéofilm de Caroline Roussopoulos, discussion d'un collectif viol autour du thème sexualité, violence, comment les femmes le vivent, s'organisent, réagissent. Et c'est avec la participation de Josiane Moutet, avocate féministe. Donc, ces 4 jours organisés par le comité contre le viol, de aujourd'hui 1er décembre à samedi 4 décembre au centre loisirs des Astères. Vendredi 3 décembre, c'est aussi le premier vendredi du mois, et comme chaque premier vendredi du mois, c'est le grand jour du bal des chattes sauvages, la grande soirée plutôt du bal des chattes sauvages. Ce sera à partir de 20h au centre femmes. Lesbiennes et toute autre femme sont cordialement invitées. Malheureusement, c'est en parallèle donc avec ce que je viens d'annoncer, les 4 jours du comité contre le viol. Par ailleurs, samedi aussi, vous aurez la possibilité d'aller donc au comité contre le viol, mais aussi à une journée de solidarité avec l'Afghanistan, avec la lutte du peuple afghan. Du reste, vous allez en entendre parler tout à l'heure, je ne vous donne pas plus d'informations. À propos, plusieurs d'entre vous sans doute attendent aujourd'hui une répétition de l'émission de mercredi soir passé sur le Centre Femmes. Cette émission sur le Centre Femmes, nous ne la passerons malheureusement pas aujourd'hui. Nous nous en excusons beaucoup auprès de celles qui l'attendaient, mais il nous a paru plus urgent, compte tenu de l'actualité de cette fin de semaine, de faire revenir sur nos ondes une invitée d'il y a 15 jours, une femme de retour d'Afghanistan, histoire d'annoncer aussi la journée de samedi prochain. Pour le Centre Femmes, faites-nous confiance. Nous en reparlerons. Et maintenant, un petit saut de 15 jours en arrière et laissons la parole à notre invitée.
Capitalisme américain et les dégâts qu'il fait en Amérique latine, au Vietnam, en Afrique. Nous avons une tradition de lutte anti-impérialiste américaine. Et personnellement, je connaissais mal l'impérialisme soviétique et j'avais envie d'en savoir plus. Alors, j'ai rejoint le comité genevois de soutien au peuple afghan et très vite, par la rencontre avec les membres du comité, j'étais informée et je me suis rendu compte du courage extraordinaire de ce peuple qui lutte quasiment les mains nues contre une des superpuissances mondiales. Le peuple afghan lutte les mains nues contre le napalm, les bombardements, les armes sophistiquées. Et ce courage et cette détermination m'ont vraiment donné envie de connaître le peuple afghan de près. Une autre chose qui m'intéressait, c'était que les femmes afghanes vivent dans des conditions difficiles que je connaissais mal et que je connais encore pas très bien. Et j'avais envie de voir comment c'est possible de développer la solidarité internationale entre les femmes. Concrètement, lors du travail avec le comité genevois de soutien au peuple afghan, je me suis rendue à la conférence de Florence, qui était une conférence européenne de tous les mouvements de gauche et un peu plus large aussi sur la résistance afghane. Et lors de cette conférence, en mars de cette année, il y avait la présence de 5 commandants de la résistance afghane. Un de ces commandants s'appelle Salim. C'est un commandant de la guérilla à Kaboul. Et il a raconté des choses très intéressantes sur la résistance à Kaboul. Notre comité l'avons invité à venir à Genève. Et lors de sa visite, il m'a invité à venir en Afghanistan. Une chose que je voudrais préciser, c'est que ce soir, je ne parle pas au nom du comité de soutien au peuple afghan. Je parle en mon nom personnel et surtout au nom des Afghans et des Afghanes que j'ai rencontrés en Afghanistan et qui m'ont demandé de raconter ce que j'ai vu et de raconter, de transmettre leur message au peuple de Suisse et d'Europe.
Peut-être avant qu'on rentre plus dans les détails de ton voyage et tout ça, je pense que ça ne serait pas inutile que tu nous fasses un petit historique de l'Afghanistan. Quelle était la situation de l'Afghanistan avant l'invasion soviétique? Quel type de régime politique est-ce qu'il y avait?
Alors, pendant des siècles, du point de vue politique, il y a eu des rois qui faisaient semblant d'organiser ou qui dirigeaient le pays. Le roi était à Kaboul et son influence était dans les villes. Et les paysans, parce que la majorité de la population afghane est paysanne, il s'agit donc de paysans pauvres et de paysannes pauvres, connaissaient à peine ce roi. Mais bon, il a réussi à freiner pas mal les développements. Par exemple, il y avait seulement 5% de la population qui savait lire et écrire. Les richesses naturelles de l'Afghanistan n'étaient pas mises à profit. Et quand elles étaient exploitées, c'était au profit de la cour, à profit du roi et de sa famille. C'est comme ça que ça se passait pendant des siècles. Et puis, il y a une trentaine d'années, l'Union soviétique a commencé à infiltrer le pays. Car l'Afghanistan a beaucoup de richesses naturelles. Il y a le coton, il y a le gaz, le pétrole, les pierres précieuses, l'uranium. Il y a toute une série de richesses. Qui a une importance pas négligeable pour l'économie soviétique. Et surtout, l'Afghanistan se trouve à un endroit stratégique sur la carte. C'est-à-dire qu'en prenant possession de l'Afghanistan, l'Union soviétique s'assure un accès aux mers chaudes et au golfe Persique, donc où il y a les régions pétrolifères. Alors, depuis une trentaine d'années, l'Union soviétique a infiltré le gouvernement de manière militaire, en assurant la formation des militaires de l'armée soi-disant afghane, en faisant une infiltration économique avec des accords, des paix, des relations amicales, des traités d'amitié afghano-soviétique et tout le tralala. Et il y a quelques années, l'Union soviétique a organisé des coups d'État, carrément. Ils ont mis en place des personnages pour représenter les intérêts soviétiques en Afghanistan. Alors le peuple, face à ses visées, le peuple a commencé à s'organiser et il a commencé à se soulever parce que il avait envie que le fruit du travail des Afghans et des Afghanes revienne aux Afghans et aux Afghanes et pas aux dirigeants du Kremlin. Alors des régions entières ont commencé à se soulever. Par exemple, la région du Nouristan, où je me suis trouvée, le Nouristan et le Kunar, en 1978 déjà, avant l'invasion proprement dite, le Nouristan a proclamé une région autonome avec son gouvernement, son drapeau, son organisation économique et militaire et son armée. Une autre région, le Hazarajat, qui se trouve au centre de l'Afghanistan, a aussi commencé à s'organiser et à se soulever contre ces personnages poussés par l'Union soviétique. Alors bon, les dirigeants de l'Union soviétique, ils ont vu que quelque chose commençait à bouger en Afghanistan et ils ont été obligés, pour eux, pour défendre leurs intérêts, d'écraser ce soulèvement populaire. Une autre raison pour laquelle les Soviétiques ont envahi l'Afghanistan, c'est que les régions sud de l'Union soviétique, le Tadjikistan, est composé de Tadjiks et qui est la même population du point de vue ethnique que les Tadjiks d'Afghanistan. C'est également vrai pour l'Ouzbékistan et les Ouzbeks. Il y a des Ouzbeks des deux côtés de la frontière, côté Union soviétique et côté Afghanistan. Il y a plusieurs ethnies communes. Alors si le peuple afghan commence à s'organiser, ça risque d'être contagieux et les peuples du sud, des régions sud de l'Union soviétique risquent de s'organiser aussi. Alors c'était une autre raison pour écraser le soulèvement en Afghanistan.
Peut-être avant d'entrer plus en avant sur comment se déroule cette guerre, on écoute un peu de musique, on écoute des chants de la résistance, c'est ça?
Oui. Je voudrais excuser la qualité un peu perturbée de cette cassette. Elle a été enregistrée clandestinement à Kaboul, donc depuis l'invasion soviétique. Et il y a des nuisances. Ces nuisances sont dues à des coups de feu et à des passages de tanks dans la région où a été enregistrée la cassette. Les chansons sont chantées par Farid et par d'autres guerrieros de Kaboul. Ils chantent leur désespoir face à la patrie occupée et leur détermination pour mener la révolution jusqu'au bout.
از گل بدر کنی کاخ ستم را از گل بدر کنی زندگی چیه یک تو جو کردن برای آزادی جان صدا کردن راه مردم را جاودان رفتن زندگی چی جست جو کردن بهر آزادی جان صدا کردن راه مردم را جاودان رفتن عهد دیگر کنید عهد دیگر شب را کاخ ستم را از بن بدر Thank you.
Tu peux peut-être nous dire un peu comment se présente géographiquement l'Afghanistan et dans quelle région tu t'es rendu. Et je pense que ça peut nous aider à comprendre le type de guerre aussi que les Russes pratiquent là-bas.
Alors l'Afghanistan se situe sur la carte à droite de l'Iran et à gauche du Pakistan, au sud de l'Union soviétique. Et il y a une frontière commune avec la Chine. Du point de vue géographique, il s'agit en majorité de montagnes, de régions montagneuses. Il y a des plaines au sud, aussi presque désertiques. Alors cette structure géographique est très importante pour la résistance. Car les montagnes, surtout quand les soviétiques ne les connaissent pas, les montagnes sont difficilement contrôlables. Bon, on peut bombarder, on peut faire des attaques de gaz chimiques, mais comme il y a peu de routes, très peu de routes, il est très difficile que les tanks montent dans les montagnes, s'installent et fassent des garnisons et contrôlent les régions. Il y a des garnisons, mais elles sont pour le moment dans les vallées et plus ou moins inefficaces, car l'armée, composée de quelques Afghans qui restent, coopère avec la population vraiment dans de grandes mesures. Alors, parmi cette région montagneuse, au nord-est de Kaboul, se trouvent le Nouristan et le Kunar, qui ont des spécificités peut-être par rapport au reste d'Afghanistan, parce qu'il y a, beaucoup d'ethnies et de groupes différents en Afghanistan. Il y a les Pashtous, il y a les Hazaras, il y a les Ouzbeks, les Tadjiks. Il y a beaucoup de populations diverses. Et le Nouristan est composé de Nouristanis. Le Nouristan veut dire terre de lumière. Et son ancien nom est le Kafiristan, c'est-à-dire la terre des infidèles. Car, comme beaucoup d'endroits dans le monde, l'islam a été amené de force et la population se pliait très peu et a résisté contre cette invasion et cette imposition de l'islam. Et dans la région du Nouristan, ça fait seulement une centaine d'années que l'islam a été imposé et il y a encore beaucoup de cultures différentes, de cultes spéciales par rapport aux objets, des coutumes différentes que celles dans d'autres parties en Afghanistan. Les gens parlent Nouristani ou des dialectes différents d'après les vallées. Et c'est une région très importante. Il s'agit aussi d'une région très importante car stratégiquement, donc elle est en plein dans les montagnes. L'accès est pratiquement impossible pour les tanks soviétiques et les troupes soviétiques. Et puis, comme je l'ai mentionné auparavant, c'était la première région à se soulever contre le gouvernement pro-soviétique mis en place par les soviétiques déjà en 1978, avant l'invasion. En plus, la région du Nouristan et du Kunar a une réputation d'être une région matriarcale. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années ou plusieurs centaines d'années, il y avait une forme d'organisation qui ressemblait au matriarcat. Il faudrait encore définir ce que c'est le matriarcat, mais c'est une région intéressante à étudier. Et s'il y a des femmes qui ont envie d'étudier le matriarcat, allez au Nouristan et au Kunar, vous y trouverez des choses intéressantes, notamment quelques restes. Le matriarcat éventuel sont que on voit souvent des hommes avec des enfants au bras, les femmes participent activement dans la production, elles sont paysannes, elles travaillent la terre,
Elles font les semences, elles récoltent les grains, elles sont très actives dans la production. Actuellement, elles n'ont pas le contrôle sur le produit de la production, mais ce serait intéressant de faire des recherches pour voir avant comment c'était. Un autre petit reste peut-être d'un éventuel matriarcat est que les hommes, il y a certains hommes qui aiment bien se maquiller, qui mettent du noir autour des yeux, qui teignent leur barbe avec du nez en rouge, et ce serait intéressant.
Avant, peut-être que tu nous expliques plus comment la guerre se déroule. Je crois qu'il faut quand même qu'on se mette à parler de cette guerre. On écoute encore un peu de musique.
Comment t'es-tu rendu dans ces régions?
Alors d'abord, nous avons formé un groupe. Nous étions un groupe d'une dizaine de personnes. Donc il y avait neuf autres combattants afghans, Et nous avons marché à pied depuis le Pakistan jusqu'au centre du Nouristan. Et nous sommes descendus dans le sud du Kunar. Nous avons marché pendant 12 jours en mangeant des biscuits et en buvant du thé essentiellement, avec donc les cadeaux spontanés des personnes qui habitaient la région.
Et quelle est la première chose qui t'a frappée quand tu es arrivée là-bas?
La première chose qui m'a frappée, c'était le courage et la détermination des Afghans et des Afghanes. Je veux dire, simplement de les voir au loin, c'est des gens fiers, dans le sens beau du terme noble, et puis leurs actions vraiment correspondent à l'impression générale qui se dégage d'eux. Ils luttent vraiment avec peu de moyens matériels et avec une volonté, toute leur volonté, contre l'envahisseur.
Et comment se manifeste cet envahisseur quand tu as mis le pied en Afghanistan?
Alors nous venions de passer la frontière et les Afghans ont crié de joie, leur joie de retrouver le pays. C'est un moment très émouvant.
Et deux minutes après, nous nous sommes trouvés face à une bombe de 250 kilos, une énorme bombe qui n'avait pas encore explosé. Et c'était notre première rencontre avec la réalité de la guerre. Ensuite, nous avons dû marcher le long des sentiers, car si on sortait des sentiers, on risquait de tomber sur une mine antipersonnelle.
Mais c'est quoi une mine antipersonnelle? Tu peux expliquer un petit peu?
Alors, une mine antipersonnelle est un petit objet de forme de papillon dont le but est de blesser. Le but est de blesser et pas de tuer, car une personne qui est blessée, on doit la soigner, on doit la nourrir, on doit la porter. Elle devient une charge pour la communauté. Alors qu'une personne qui est décédée, on la pleure, on l'enterre, et on se souviendra toujours dans nos cœurs de cette personne. Mais un blessé ou une blessée pose des problèmes matériels très concrets qui, objectivement, prennent les forces de la résistance qui pourraient être dévouées à d'autres, à des actions militaires. Alors les mines antipersonnelles sont fabriquées de couleurs de plastique différentes. Par exemple, clair l'été et plutôt sombre en automne, pour mieux se dissimuler dans le paysage.
Et comment est-ce qu'elles arrivent là, ces mines antipersonnelles?
Elles sont larguées par hélicoptère sur des régions entières. Elles sont larguées et donc elles se confondent avec le paysage. Et puis quand on en touche une avec le pied saute, la jambe explose. Et de même avec les mains et les bras. Et souvent, on met le pied dessus, la jambe explose et on tombe dessus avec le bras. Et on a souvent un pied et un bras complètement mutilés.
Et comment ça se passe sur les sentiers? Parce que tu as dit que vous marchiez principalement sur les sentiers. Mais sur les sentiers, il doit aussi y avoir des mines antipersonnelles.
Alors, les sentiers qui sont utilisés habituellement par la résistance sont déminés régulièrement par les combattants. Les combattants se mettent en ligne de 3 ou de 4 et ils avancent lentement. Et quand ils repèrent une mine antipersonnelle, ils prennent un caillou, une pierre, ils la jettent sur la mine et la font exploser. C'est un travail très long et très pénible. Et puis, quand un combattant perd une jambe, un autre combattant le remplace. Et la marche continue et ils déminent les sentiers jusqu'à ce que les sentiers soient sûrs et qu'on puisse s'y rendre. Une autre chose à rajouter sur les mines antipersonnelles, c'est que les enfants en sont les premières victimes. Parce qu'elles sont en forme, elles sont en plastique, elles sont de couleur et les enfants sont attirés par ces objets. Donc les enfants sont les premières victimes des mines antipersonnelles.
Les Russes donc ne font pas que de jeter ces mines antipersonnelles. Je crois qu'ils utilisent aussi le napalm.
Oui, malheureusement, le napalm est aussi utilisé en Afghanistan. Le napalm est une sorte de boule de feu qui met le feu au village, qui incendie les villages.
Toujours par hélicoptère, ça se passe?
Oui, par hélicoptère. Et le napalm, c'est un produit qui s'agrippe à la peau et qui ronge la chair jusqu'à l'os, jusqu'aux os. Il y a des photos disponibles de femmes, de personnes qui ont été napalmées. C'est absolument horrible à voir. Et il n'y a rien qu'on peut faire, quoi. On se jette dans l'eau ou quelque chose et puis ça s'empire, quoi. C'est vraiment une arme absolument horrible et puis qui est utilisée comme toutes les armes de toute la guerre de l'Union soviétique contre l'Afghanistan, qui est utilisée contre toute la population, enfants, femmes, vieillards, hommes, sans discrimination. C'est vraiment un massacre, c'est pas justifiable.
Et les Russes, donc, à part cette action qui se passe par hélicoptère, donc dans les endroits où justement il n'y a pas de route, à part ça, donc, sont plutôt cantonnés près des villes et le long des axes routiers. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en rencontrer ou d'assister à des affrontements?
Alors, premièrement, le but du voyage était de rencontrer le peuple afghan et de visiter les régions libérées. Donc, le but du voyage était de voir les régions qui ont été libérées par les Afghans et les Afghanes.
Qu'est-ce que tu appelles libéré?
Libéré, c'est-à-dire que pour le moment, les Soviétiques sont dans les villes et sur les routes. Et 90% du territoire, les montagnes, les vallées et les plaines, sont sous le contrôle des combattants.
Mais ils sont quand même soumis aux mines antipersonnelles.
Oui, oui. Il y a des bombardements, les mines antipersonnelles et tout, mais les combattants et les combattantes se baladent le fusil sur l'épaule, librement, comme ils le décident. Bon, bien sûr qu'il y a les mines antipersonnelles qui sont larguées pour couper la communication entre les régions, mais n'empêche, elles sont dans les mains des combattants.
Alors, tu n'as pas rencontré de...
Alors, je vais continuer. Alors, sur le but du voyage, un autre élément, c'est que la résistance prend beaucoup de précautions par rapport aux invités. Parce que pour eux, c'est une très grande signification qu'une personne d'un autre pays vienne voir, témoigner de ce qui se passe en Afghanistan. Alors, ils prennent des précautions énormes. Et puis, ils ont voulu vraiment écarter tout danger éventuel. Parce que si quelque chose m'était arrivé ou arriverait à n'importe quel autre invité, vraiment, ils ne se le pardonneraient pas. Ce serait, pour eux, c'est un déshonneur, c'est vraiment quelque chose qui ne se serait pas pardonné. Alors, ils veulent être sûrs que quand ils emmènent quelqu'un, que toutes les conditions de sécurité sont assurées, que la vie de cette personne est protégée. Et ça s'est traduit concrètement par le fait que, premièrement, nous n'avions qu'une arme à répétition, c'était une Kalachnikov qui avait été prise à l'ennemi auparavant, et qu'ils nous l'ont confiée parce que c'était la seule arme qui pouvait défendre un peu. Les autres armes étaient des vieux fusils, et ils ont pensé que c'était essentiel que je puisse me défendre, alors qu'eux avaient moins de moyens entre les mains. Et ensuite, il y avait toujours, nous étions un groupe, et il y avait toujours une personne qui restait avec moi. Et pour absolument tout, en permanence, il y avait une personne avec moi au cas où quelque chose se passerait. Une autre raison pour laquelle c'est très important de ne pas être, ou d'être peu en contact direct avec les soviétiques, ou si on est en contact, ce serait avec des bonnes mesures de sécurité, c'est que le gouvernement soviétique cherche activement des personnes étrangères qui viennent en Afghanistan. Parce que pour eux, c'est très dangereux que quelqu'un vienne, témoigne, voit et témoigne à l'extérieur. Alors, ils essayent d'attraper les personnes, et quand ils les attrapent, ils les utilisent pour la propagande. Par exemple, s'ils attrapent un Suisse, ils pourraient dire « La Suisse capitaliste soutient les rebelles contre-révolutionnaires ». Et ça leur fait une arme de propagande extraordinaire dans le monde. Alors ils essayent d'attraper les étrangers et les étrangères qui vont en Afghanistan. Une personne qui va en Afghanistan doit vraiment prendre des précautions avant de partir pour ne pas pouvoir être utilisée par les soviétiques.
Et comment est organisée la résistance? Bon, celle peut-être que tu as rencontrée dans les régions où tu es allée, et puis aussi au niveau général.
Alors, comme toute la population est victime des attaques soviétiques, toute la population a réagi et continue à réagir. Il est pratiquement impossible de faire la différence entre la population civile et la résistance armée. Parce qu'au début de la lutte, chaque Afghan regroupa ses frères, ses cousins, ses oncles, ses enfants, pris un fusil ou les armes qu'il avait à la maison et s'organisa pour organiser la résistance. Alors c'était une réaction individuelle mais absolument massive et spontanée et partout dans tout l'Afghanistan. Alors de là, les villages, les régions ont commencé à se coordonner entre elles parce qu'elles se rendaient bien compte que c'était absolument vital de s'unir et se coordonnaient. Commencer à se coordonner pour sortir l'envahisseur. Cette différence entre population civile et résistance, on pourrait la faire entre celui qui a une arme et celui qui n'a pas d'arme. Mais bon, toutes les personnes qui n'avaient pas d'arme m'ont demandé de leur en procurer une. Alors, la volonté, elle est vraiment partout en Afghanistan, et il y a vraiment une unité dans le
la volonté de sortir des Soviétiques. Concernant... Tu m'avais demandé si j'avais vu des combats et des soldats soviétiques. Alors bon, le voyage a été organisé pour visiter les régions libérées, mais ça n'empêche pas que les Soviétiques sont en Afghanistan. Et nous avons eu plusieurs moments avec les forces soviétiques. Par exemple, d'abord nous avons rencontré des déserteurs de l'armée gouvernementale afghane. Donc, il y avait une armée gouvernementale, soi-disant, afghane avant l'invasion, qui était de 90 000 hommes. Et bon, suite à l'invasion, il y a les 70 000 qui sont partis et il reste 20 000 qui sont obligés de rester là. Et la majorité de l'armée a déserté et a rejoint la résistance. Alors nous avons rencontré des déserteurs et des soldats qui ont rejoint la résistance, qui venaient de sortir de leur garnison en prenant armes et munitions et qui venaient de rejoindre la résistance. Nous avons discuté avec eux, ils nous ont expliqué pourquoi ils l'avaient fait et que pour eux c'est évident que leur famille, leur peuple résiste et puis qu'ils étaient désolés d'avoir pas pu sortir plus tôt. Un deuxième moment par rapport aux Soviétiques, c'est que nous avons dû passer pour revenir entre deux garnisons très proches l'une de l'autre, et nous avons dû traverser un énorme fleuve. Alors il a fallu bien préparer ce moment parce que c'était extrêmement dangereux. Nous avons dû marcher la nuit, nous avons dû être complètement silencieux, nous avons dû former un grand groupe au départ avant de pouvoir passer entre ces garnisons pour assurer la sécurité. Et puis nous sommes montés dans un canot pneumatique et puis c'était très important de traverser très vite le grand fleuve parce que si nous ne traversions pas assez rapidement, on aurait été embarqués devant la garnison soviétique. Ça, c'était un autre moment un peu difficile. Et puis bon, quand on était dans le village, on est resté 5 semaines dans un village. Pendant plusieurs jours, des hélicoptères et des MiG nous ont survolés en regardant ce qui se passe. Et puis, c'était 2 hélicoptères et 2 MiG. Et puis, ils ont bombardé la vallée à côté. Alors, si tu veux, j'ai pas vu les yeux, la couleur des yeux du pilote, des pilotes soviétiques dans les avions. Mais j'ai vu donc la présence soviétique en Afghanistan.
Peut-être avant de continuer, on va écouter un petit peu de musique. Qu'est-ce qu'on écoute alors cette fois? On écoute toujours les chants de la résistance. Comment est organisée la résistance en Afghanistan?
Alors pour le moment, il n'y a pas encore un front qui regroupe toutes les forces de la résistance afghane. Mais il existe les bases de ce front, et même plus que les bases, il existe des membres actifs d'un front qui s'appelle le Front Uni National d'Afghanistan, le Jabha Mojtahide Milli Afghanistan. Ce front est composé d'organisations politiques révolutionnaires, il est composé de fronts militaires, il est composé de personnes démocratiques. Et c'est un front donc ouvert à toute personne qui est d'accord avec la plateforme et qui est d'accord de lutter contre l'envahisseur soviétique. Ce front a organisé des actions, beaucoup d'actions, au sein des garnisons et les révoltes donc de soldats et d'officiers contre l'armée, l'invasion soviétique, donc au sein de l'armée afghane. Les révoltes, il y a eu beaucoup de révoltes dans les garnisons et c'est extrêmement important la question du rôle de l'armée afghane dans la résistance. Alors bon, maintenant la majorité de l'armée afghane a rejoint la résistance et il s'agit de construire des régions libérées, bien organisées et d'intensifier les combats autour des villes et autour des régions occupées. Le Front Uni National d'Afghanistan est important dans une quinzaine de provinces sur 26. Et il compte des membres actifs dans toutes les autres provinces. C'est le seul front que j'ai rencontré et dont j'ai vu les actions qui menaient la lutte avec le peuple et pour le peuple, pour le bien-être du peuple, dans l'immédiat et pour le futur. Quelques points de ce qu'a envie le front pour le futur rejoint totalement ce que désire la population. J'ai demandé...